Classique 21, you rock.
Radio Caroline.
Radio Caroline, avec Olivier Monsens.
Salut, ravi de vous savoir à mes côtés sur le pont de notre cargo Radio Caroline, à bord duquel aujourd'hui, nous allons nous glisser dans l'univers irrévérencieux, singulier et transgressif bien souvent, d'un réalisateur français, Joël Seria, un nom qui ne vous dit peut-être pas grand-chose et qui est surtout connu, à vrai dire, pour un gros succès grand public qualifié, sur un malentendu, on y reviendra, de grivois, de gaulois, Les Galettes de Pont-Aven, film qui a propulsé Jean-Pierre Marielle parmi les comédiens stars et bankable.
Oh nom de Dieu, quelle merveille. Oh que c'est beau. Non, ne bouge pas. Laisse-moi regarder. Oh, je revis. Oh. Oh nom de Dieu, bordel de merde. Oh, suis-vous. Oh, je suis complètement sauvé.
Je le disais, on est loin en réalité avec ces galettes de Pont-Aven de ce qu'a fait et surtout fera Joël Seria de nettement plus borderline. Mais pour rester encore un instant sur ce film, si les galettes de Pont-Aven ont été bien souvent réduites à ces répliques que nous avons entendues ou à d'autres encore plus salaces, on peut quand même dire que cette liberté de ton était en phase avec un esprit libertaire, libertin qui, au milieu des années 70, ressurgissait dans la société française. Mais encore une fois, avant elle et même après elle, et là je cite une critique patentée, Nathalie Drey dans Libération, le cinéma de Joël Seria recèle également, sous sa truculence paillarde, une ineffable mélancolie, glissant parfois dans des abîmes de noirceur insoupçonnée. Comme si l'hédonisme libertaire auquel aspirent ses héros cristallisait en miroir les doutes d'une virilité chancelante et déboussolée dans la France contrastée de l'après-68 dont Seria aura parfaitement capté l'air du temps. Du mal en crise au mal tout court, il n'y avait qu'un pas que le réalisateur franchissait dès son premier long-métrage en 1971 avec « Mais ne nous délivrez pas du mal », petit bijou du cinéma bis à la française. S'il est sans doute moins question d'hédonisme que de transgression, l'essentiel est déjà là. Esprit de fronde anticléricale, goût des marges et des petites culottes en coton sous les atours d'un romantisme noir, alliant teen movie et satanisme. Il s'agit d'une cinglante radiographie de la France de l'époque, de sa bourgeoisie compassée et oisive et de ses institutions religieuses hypocrites. Dixit donc Nathalie Drey dans le journal Libération. Plongeons-nous donc dans ce mal et dans le parcours étonnant autant que revigorant de Joël Seria. Joël Seria est né le 13 avril 1936 à Angers. Dès l'enfance, pendant la guerre, il fréquente le cinéma Le Vauban avec sa mère et son frère, son père étant prisonnier en Allemagne. « Je suis un spectateur du cinéma populaire, le cinéma du samedi soir. J'adorais les westerns, les films avec Errol Flynn, Tyrone Power, les films noirs avec Gabin », racontera Seria. La découverte du cinéma plus sérieux d'auteur, ce sera pour plus tard, à la Cinémathèque, quand Joël Seria claquera la porte du foyer familial pour gagner Paris.
C'est-à-dire que moi, j'ai eu une jeunesse assez difficile parce que j'étais dans des petits séminaires. J'étais élevé chez les curés, j'étais pensionnaire pendant 10 ans. Et j'avoue que moi, ces années de pension étaient comme de la prison pour moi. J'ai fait beaucoup de collèges, j'ai fait une dizaine de collèges d'où j'avais été renvoyé. Beaucoup renvoyé des collèges et tout ça. J'avais eu une enfance difficile. J'avais des problèmes avec mes parents. Hein. Et par moments, quand je rentrais dans leur maison sur les bords de Loire, je cachais les couteaux la nuit parce que j'avais peur de les poignarder. J'avais un vrai problème, un vrai conflit avec eux. En plus, mon père, moi, il avait été prisonnier pendant la guerre et il m'avait mis en pension tout de suite après en revenant d'être prisonnier.
À 17 ans, Joël Seria part donc à Paris, où il devient plus ou moins comédien pendant 10 ans, mais sans grand succès, avant, suite à un accident, de se réorienter vers la réalisation. « Je me suis pris de passion pour la littérature et la poésie à l'adolescence. L'isolement dans les collèges religieux a développé mon imagination et mon envie de faire des films vient de cette envie d'échapper au réel pour raconter des histoires », précisera-t-il. Avec l'argent de son premier scénario pour un film qui ne verra jamais le jour, jours, Seria finance son premier court-métrage, Shadow, 8 minutes en noir et blanc sur l'entraînement d'un boxeur qu'il a croisé au boxing club du premier arrondissement qu'il fréquente alors lui-même en boxeur amateur. Après quoi, en 1971, il sera temps pour lui de régler ses comptes avec son éducation religieuse à travers son premier long métrage, Mais ne nous délivrez pas du mal, un premier film occulte d'une réjouissante irrévérence déjà prompt à ruer dans les brancards de la France pompidolienne, donc celle de Georges Pompidou, Lige sous une plume avertie.
En étant au collège, un jour j'ai lu un entrefilet sur le journal. L'histoire de deux filles, qui avaient tué leur mère à coups de pierre. Mais c'était dans les années 50. Hein. Mais je me souviens, j'étais au collège et j'avais été très très surpris par ça. Parce que c'était un peu le problème que j'avais avec mes parents. Alors ça m'avait frappé. C'est pour ça que quand j'ai voulu être réalisateur, j'ai repensé à cette histoire. Mais j'ai complètement imaginé plein de choses différentes et tout ça par rapport à moi, à ma vie que j'avais vécue en province. Hein. Et voilà, donc j'ai écrit ce film, quoi. Les gens qui lisaient le film, oui, ils étaient choqués par le... Oui. Parce que quand on a voulu avoir l'agrément du film, il faut envoyer le scénario au Centre du cinéma. Et il nous a envoyé une lettre terrible, terrible, en disant que de toute façon, si on se lançait dans la production d'un film comme ça, le film serait interdit. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on n'a pas réussi à trouver de distributeur. Hein. On a fait le film comme ça, en sauvage, on a fait le film. C'est pour ça que le film n'a pas été cher. J'ai réussi à emprunter un peu d'argent en province auprès de gens que je connaissais. Et puis je me suis associé avec un producteur de court-métrage. On a monté une société de long-métrage et on a donc fait « Mais ne nous délivrez pas du mal ».
Revenant sur ce film à l'occasion d'une rétrospective consacrée à Joël Seria par la Cinémathèque française, le critique Jérémy Couston écrira « Ce brûlot jugé malsain narre les aventures de deux nymphettes en robe à fleurs qui se vengent de leur éducation religieuse en jurant allégeance à Satan. Sous le soleil radieux de la campagne angevine, les deux oies pas si blanches prennent un malin plaisir à exhiber leurs culottes en coton à tous les mâles, curés, automobilistes, fermiers, qui croisent leur route quand elles n'étouffent pas des perruches en récitant les hérétiques sonnets de Baudelaire ou autres horreurs signées Lautréamont. » Horreur entre guillemets, bien sûr. Inspiré à Joël Seria par sa propre et traumatique adolescence en pensionnat catholique, poursuit le journaliste, mais aussi par un fait divers néo-zélandais, cette perle du cinéma bis à la française cultive son anticléricalisme et déploie bien avant l'heure une critique de la masculinité toxique. C'est, en outre, le premier film de la trop rare Jeanne Goupil qui deviendra l'égérie et la compagne du cinéaste et dont personne ne pourra contester la vénéneuse innocence. Dixit.
Nous voici arrivés aujourd'hui au plus important des sept péchés capitaux, l'effroyable péché de la chair. Rappelons-nous, mes bien chers frères, les sixième et neuvième commandements de Dieu. Luxurieux, point ne sera, de corps ni de consentement. Œuvre de chair ne désirera qu'en mariage seulement.
Ainsi, je voyais son corps chéri dans une mystérieuse lumière. Nous étions plus près l'une de l'autre, plus libres, plus intimes, plus nus. Demain a lieu la cérémonie. Ce sera certainement le plus beau jour de notre vie. Tout est prêt. Nous sommes allés acheter les robes ce matin et la répétition cet après-midi a très bien marché. Demain soir, quand je noircirai de nouveau ses pas, je serai une autre femme. Cela devient de plus en plus excitant. Laure et moi éprouvons maintenant un plaisir de plus en plus intense à faire le mal. Péché est devenu notre principal objectif. Comme d'autres, les crétins passent leur vie sous le signe de la vertu. Laure et moi le passons sous le signe de Satan, notre Seigneur et Maître.
Je renonce à Jésus-Christ, à ses pompes et à ses œuvres, et je m'attache à Lucifer pour toujours.
Une fois sortie de cette vie passagère, je veux que nous soyons enlacés pendant l'éternité. Ne former qu'un seul être, ma bouche collée à ta bouche.
quitter, je ne veux pas te quitter, je ne veux pas.
Ils nous sépareront pas, je te jure.
Elles sont folles, qu'est-ce qui leur prend?
Mais ce n'est pas ce qu'elles ont répété.
Vous préférez la mère supérieure?
Oui.
Alors ce film sera privé d'écran, de projection en salle par la commission de censure de l'époque en raison, je cite, de la perversité, du sadisme et des ferments de destruction morale et mentale qu'il distille. Cela dit, mais ne nous délivrez pas du mal, finira par sortir quelques mois plus tard, caviardé d'un baiser lesbien entre bonnes sœurs et flanqué d'une interdiction au moins de 18 ans.
L'effroyable péché de la chair. Rappelons-nous, mes bien chers frères, les sixième et neuvième commandements de Dieu. Chef d'or, de l'Aston, Géhenne, Chartier.
J'ai réglé des comptes avec ce film, des choses de ma jeunesse, et pour moi, oui, ça s'est exorcisé quand même beaucoup de... Ouais, beaucoup de choses, et c'est vrai que... Puis en plus, ça m'a... Faire rencontrer Jeanne Goupil, alors, c'était d'autant plus formidable, quoi.
Après « Mais ne nous délivrez pas du mal », un film assez dur, j'avais envie d'une histoire plus légère, racontera le réalisateur Joël Seria, expliquant qu'il a puisé l'idée du scénario de son deuxième long-métrage, « Charlie et les deux nénettes », qui sortira en 1973, dans ce qu'il avait vécu à l'époque où il était un acteur très intermittent.
Ben, pendant un moment, j'ai fait des marchés pour me faire un peu d'argent. Et puis, vendre des choses comme ça à 5 heures du matin... toutes ces places de banlieue, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'atmosphère, quoi. Et puis je me suis dit, surtout, mais il n'y a jamais rien eu de fait là-dessus. Et alors j'ai imaginé, justement, j'avais pris un grand plaisir à faire un film avec deux filles. Je me suis dit, tiens, et pourquoi est-ce que je ne prendrais pas, justement, Jeanne, avec Nathalie Drivet, et elle vendrait, je me suis dit, tiens, bah pourquoi pas des toiles cirées sur les marchés et tout ça.
Approchez, approchez.
Venez sentir.
Venez toucher.
Venez admirer.
Venez acheter.
Bien entendu.
Nos incomparables articles.
Nos toiles cirées.
Les plus belles du monde. Approchez, mesdames, approchez.
Et à partir de là, je suis parti dans mon histoire. J'ai écrit ça très vite, hein. J'étais à l'hôtel à l'époque. Et il y a eu des producteurs. Il y avait, entre-temps, il y avait le Bovici... du directeur d'Armédia qui s'était mis en rapport avec moi. Il avait adoré, mais ne délivrait pas du mal. Et il avait beaucoup aimé Jeanne. Et il nous avait pris dans l'agence. Il nous avait pris. Il s'occupait personnellement de nous. Il a lu Charlie et ses deux nénettes et ça l'a intéressé.
Pour le rôle secondaire du bonimenteur, poursuit Seria, j'ai pensé à Marielle, que j'avais vue dans plusieurs pièces de théâtre. Je l'ai rencontrée, lui ai donné le texte et il a accepté très vite. Alors je vous raconte l'histoire, c'est celle de Charlie, un quadragénaire qui cherche du travail, interprété par Serge Sauvion, la voix française de Colombo se dit entre parenthèses, qui rencontre dans un bureau de placement deux jeunes filles, Guylaine et Josiane, également au chômage, jouées par Jeanne Goupil et Nathalie Drivet. Ils sympathisent, Charlie leur apprend qu'il a été vendeur ambulant et qu'il connaît bien les marchés. Ensemble, ils décident donc de vendre de la toile cirée sur les marchés. Et puis un jour, ces deux nénettes, comme le dit le titre du film, font la connaissance de Tony, un autre vendeur vraiment singulier, mais qui possède une superbe caravane. Et ce forain, comme on disait, c'est Jean-Pierre Marielle.
Il y avait un personnage de forain, grand, fort en gueule et tout ça, et j'ai pensé à Marielle. Voilà. Et donc j'ai rencontré Jean-Pierre. Jean-Pierre a été emballé par le rôle, hein. C'était pas un grand rôle, mais enfin, il a vu ce qu'il pouvait en faire, il l'a fait magnifiquement.
Approchez, mesdames et messieurs, approchez, grand franc seulement, et vous emportez la cathédrale avec vous. Charles. La flèche irréprochable et qui ne peut faillir, plus haute que tous les saints, plus haute que tous les rois, dit Charles Péguy. Charles, cette cathédrale unique au monde, gigantesque, le plus beau fleuron de l'art religieux français, vous l'avez pour les yeux, mesdames et messieurs, miniaturisé, reproduit fidèlement jusque dans ses moindres détails, travail obscur et colossal, œuvre d'un maçon du XVIe siècle. 30 francs seulement, et vous lirez l'étrange histoire de ce petit chef-d'œuvre. Vous apprendrez comment l'homme qui accomplit ce travail tombe amoureux de la cathédrale, passa toute sa vie sur elle, et comment, après avoir perdu la vue, il tomba du haut de la cathédrale et expira à ses pieds. Ne touchez pas les mots, là. Non, regardez, mais ne touchez pas. Vous désirez quelque chose, mademoiselle?
Non, vous écoute.
Allez, un petit effort. Hein? 30 francs les petites, 40 francs les grandes.
Non, non, regarde seulement. C'est à vous la caravane derrière?
Ouais. Pourquoi?
Parce qu'elle nous a tapé dans l'œil. C'est la plus belle du marché. C'est la Grand Luxe, n'est-ce pas?
C'est la GL.
Tu vois, je te l'avais dit.
Vous voulez la visiter?
Oui. Oh, je veux bien, ouais.
Ouais?
Ouais.
Ouais? Allez, venez.
Vous voulez tout votre stand?
Oui, bon, ça prend rien.
Je pensais pas que c'était aussi grand.
Asseyez-vous dans le petit salon, on va voir quelque chose.
On aimerait bien, mais on peut pas. Tu crois? Oh non, Charlie a dit pas plus de 5 minutes.
Juste un petit quelque chose.
Non, faut qu'on y aille.
Oh, non, mais c'est dommage. Hein? Qui c'est ça, Charlie?
C'est notre patron.
Alors, revenez me voir, amenez-la avec vous pendant l'apéro.
Ouais, d'accord.
Hein?
Ouais.
Aussitôt dit, aussitôt fait.
Où vous allez, vous, maintenant?
On va remonter sur Paris.
Ah bon, ça, c'est des conneries. Bah, à Paris, y a rien à y foutre. Pourquoi vous venez pas avec moi?
Tu vas à toi.
Là, je descends sur Marseille, puis en passant, je fais tous les gros marchés.
Bah ouais, ça serait sympa.
Ah, mais je connais rien là-bas, moi.
Bah, ça peut foutre. Je te mettrai sur le coup, hein, puis quand tu seras bien rodé, je te lâche dans la nature.
Oh oui, Charlie. Au revoir, on y va.
Hein? Ouais?
Bah, on peut faire un petit bout de route ensemble, ouais.
Dans une scène de Charlie et les deux nénettes, on les retrouve tous les trois dans un grand lit. Mais, comme le note à l'époque, en 1973, Jacques Siclier, grand journaliste du Monde, c'est d'une simplicité, d'une ingénuité étonnante. Car au fond, Charlie est plus un père, selon leur cœur, qu'un amant pour ces deux jeunes filles un peu paumées sous leurs allures libres.
Voyons voir, comment on va s'installer? On va être obligé de vous enlever des couvertures.
Oui, oui.
Regarde dans l'armoire s'il n'y en a pas d'autres. Non, il n'y a rien du tout. C'est pas grave, dans le lit, il y en a que deux.
Oh, prenez le lit, voyons.
Ce qu'on est bête. On n'a qu'à se mettre tous les trois dedans, c'est encore ce qu'il y a de plus simple. Vous n'allez pas nous violer. Allez, on fait comme ça. On aura plus chaud, vous au milieu et nous de chaque côté. Hein? Si Jackie et Roger nous voyaient, ils nous tueraient.
C'est un film fait de notations rapides, jetées un peu pêle-mêle, mais juste, pointe encore le critique, une bagarre dans un bal de banlieue, l'univers des marchands itinérants, la tasse de Nescafé qu'on se prépare, les doigts gourds sur une place de marché dans le froid et la neige, et les rapports qui s'amorcent, s'établissent presque sans rien dire, entre Serge Sauvion, Charlie, et Jeanne Goupil et Nathalie Drivet, les deux nénettes. Il y a là-dedans de la vie, de la tendresse et de la sincérité. En somme, la photographie impressionniste est presque documentaire de la France populaire de l'époque, celle de la première moitié des années 70. Dans la foulée de la sortie en 1973 de Charlie et ses deux nénettes, enthousiasmé par sa rencontre et son travail avec Jean-Pierre Marielle, pourtant second rôle dans cette fiction, le réalisateur Joël Seria retrouve son producteur et lui dit
« J'ai pris un tel plaisir à travailler avec Marielle que ça y est, j'ai l'idée d'un sujet avec Marielle. Je suis en train de l'écrire, j'ai vraiment envie de faire le film. » Il m'a dit « Ah bon, bon, t'as une idée, tout ça et... » J'ai dit oui, oui, j'ai un rôle pour lui, je le veux en rôle principal parce que j'ai une facilité à écrire pour lui et puis il dit tellement bien les dialogues et tout ça. Et donc il m'a dit mais vas-y, vas-y. Il m'a payé pour écrire. Rendez-vous aux Champs-Élysées, dans un bar. Il m'a dit, il sort les billets, les bifetons de sa poche. Pla, pla, pla. Il m'a payé cash pour écrire le film. Alors là, c'est. Hein. Il m'a payé cash et j'ai écrit le film. Il m'a absolument pas ennuyé. Il m'a dit mais c'est ok complètement. Ah ouais les dialogues, tout va très bien et on essaie de monter le film. Il n'a pas fait le film lui. Il n'a pas réussi à monter l'opération parce qu'à l'époque c'était très dur de monter un film avec Marielle en rôle principal. Très très dur.
Elle était belle ta femme?
Ouais très. T'es le genre belle brune bien balancée avec des nibards énormes. Pas comme toi, ma choupette.
Pourquoi t'as pas d'enfant?
Ouais, on voulait pas.
Dans un numéro de l'émission de la RTBF Cinéscope, Jean-Pierre Mariel évoque lui aussi les difficultés à monter ce film, en précisant quant à lui que le nom de Seria posait également problème, de même qu'il revient sur les malentendus qui ont collé à ces fameuses galettes suite au succès du film et à certaines de ses répliques.
Personne n'en voulait, oui. Personne n'en voulait, d'abord parce que Seria était inconnu, il avait fait deux films, il avait fait un film que j'avais fait avec lui, ce qui était Charlie et ses deux nénettes. Ça m'avait bien plu, c'était personnel, il y avait un bon dialogue.
Un marchand de cathédrale.
Ouais, c'est ça, il vendait la cathédrale de Chartres sur les...
En pain d'épices d'ailleurs.
C'est ça, le forain. Et puis, on a sympathisé, on a parlé, puis il m'a dit qu'il était en train d'écrire quelque chose et qu'il pensait qu'on le ferait ensemble. Et puis un jour, il m'a donné les galettes de Pont-Aven. J'ai été très, très séduit par ce scénario, mais c'était impossible, Seria n'était pas connu. Moi, monter un film comme ça sur un homme, c'est-à-dire sans couple, généralement on monte des films avec des couples, ouais, tout seul comme ça. Et personne n'en voulait, à tel point que j'ai dû faire des lectures du scénario à des producteurs.
Des auditions.
Oui, alors je leur lisais le scénario. Et puis à la fin, on n'y arrivait pas, et c'est grâce à mon vieil ami Belmondo qui l'a lu et qui a dit à l'UGC, c'est formidable, ils ne l'ont même pas lu, ils ont financé le film. Vous voyez, de confiance. Et ça s'est fait comme ça, avec plusieurs producteurs, et puis le film a très très bien marché. On a parlé d'un film paillard, je ne pense pas du tout, et d'un film grivois, c'est ce qu'on... La grivoiserie n'a absolument aucune place dans ce film. Sinon, que par moments, ce personnage qui justement est complètement replié sur lui-même a des explosions. Il a été enfermé pendant 20 ans et brusquement il se trouve libéré et il se lance complètement à corps perdu dans la vie comme il se lancerait dans la mort, comme dans une sorte de suicide. Et quand au départ Seria a écrit son scénario, il s'est inspiré de la vie de Gauguin qui vivait en famille, tout ça, et qui un jour a foutu le camp. Et
pour faire la peinture.
Voilà, c'est ça. Et cet homme... a fait la même chose, si vous voulez. Il est parti, puis il a fait de la peinture, il lui est arrivé diverses péripéties, et puis voilà.
Ça souligne ton côté enfant, t'as un peu une tête de poupée.
Ça doit être vrai, quand j'étais petite, ma grand-mère, elle m'appelait Marie-Poupée.
Ah, tu vois.
Marie-Poupée, elle disait que c'était le nom d'une femme que Gauguin avait beaucoup aimée. C'est vrai, ça?
Ouais. Mais elle, elle l'aimait pas. Elle en aimait un autre.
C'était un mauvais homme, paraît-il.
Bah, qui c'est qui t'a dit ça?
Toujours ma grand-mère.
Bah.
Elle m'a dit qu'ici, à Pont-Aven, il n'était pas aimé, qu'il voulait coucher avec toutes les femmes.
C'était un mec comme moi, le Gauguin.
Je bouge pas trop, ça va?
Ah, ça va.
Vous savez, dans 15 jours, je quitte la pension.
Ah bon? Qu'est-ce que tu vas faire?
Je fais des crêpes sur la plage de Raspico. Tous les ans, je fais ça en juillet, en août. Ça paie bien, je me fais double d'ici. Mais je reviens en septembre, vous serez peut-être encore là.
Ah, peut-être, oui.
Je vends aussi des beignets et des pommes d'api, il faudra venir me voir.
C'est beau, les pommes d'api. C'est un joli rouge. Tourne un peu la tête, là. Voilà. C'est bien.
On l'a entendu dans cet extrait, l'un des personnages des galettes de Pont-Aven, Marie, jouée par Jeanne Goupil, est surnommée Marie-Poupée, en référence à une connaissance du peintre Gauguin. Or, Marie-Poupée, ce sera le titre du prochain film de Joël Seria, qui sortira en 1976, avec dans le rôle principal, encore et toujours, Jeanne Goupil, compagne du réalisateur. La comédienne a alors 26 ans, mais en paraît nettement moins, ce qui tombe bien, puisque c'est l'histoire d'une jeune fille qui, dans une ville de province, fait la connaissance d'un marchand de poupées, André Dussolier, elle qui, justement, avec ses grands yeux étonnés et ses joues de porcelaine, ressemble à une poupée.
Désirez, mademoiselle?
Et rien, je regarde.
Vous voulez peut-être un renseignement?
Non, non, merci, je regarde seulement vos poupées. Elles sont tellement belles.
Vous trouvez?
C'est fou ce que vous en avez.
Ah, ici, j'ai pas le dixième de ce que je possède.
Vous en avez encore d'autres?
J'en ai plein ces placards, plein la cave, chez moi une pièce entière. J'ai à peu près 400 poupées.
Oh, c'est incroyable, où est-ce que vous les trouvez?
Un peu partout. Chez des particuliers, surtout. Puis je me déplace aussi à l'étranger, en Autriche, en Allemagne, en Amérique du Sud.
Vous allez jusque là-bas?
Ça m'arrive, oui. Le mois prochain, je vais au Japon faire une expertise. Vous êtes au lycée?
Non, cours voilà.
En terminale?
Non, en seconde. J'ai 2 ans de retard parce que j'ai été malade. Il est déjà 6 heures?
Oui.
Faut que je rentre. Au revoir, monsieur.
Si vous voulez revenir, mademoiselle, n'hésitez pas. Ça me fera un plaisir de vous montrer les poupées.
Je vous remercie.
Le marchand s'éprend d'elle, lui fait une cour délicate, l'épouse. La jeune fille est folle de bonheur, elle ne sait rien de la vie et ce mariage lui apparaît comme un conte de fées. Nul n'ignore que, sous leur limpidité apparente, les contes de fées regorgent de secrets vénéneux, écrit un critique à l'époque, et ce conte que vit Marie prend vite une étrange tournure. Le soir des noces, le mari demande à sa femme de revêtir une robe à volant comme en portaient les poupées au XIXe siècle. Puis il la déshabille tendrement, la conduit dans la salle de bain et commence à la savonner. « C'est ainsi que je lave mes poupées », lui explique-t-il. Marie trouve le jeu très amusant. Les jours suivants, le jeu se poursuit, toujours selon les mêmes règles. Le marchand a installé Marie dans une belle maison, sa chambre est naturellement meublée. Comme une chambre de poupée, une chambre où son mari la dorlote, la cajole, la part de robe de plus en plus précieuse, mais où elle dort seule, sans rien apprendre d'autre des choses de l'amour.
Germaine, aidez Marie à s'installer, moi je vais prendre un bain et me changer.
Et toi, où est ta chambre?
Ah, toujours au même endroit, tu sais, à côté.
Arrivé à ce point de son histoire, lis-je encore, Joël Seria donne l'impression de ne plus très bien savoir où aller. Nous avons compris depuis longtemps que l'homme est un fétichiste qui n'a voulu qu'ajouter une poupée vivante à sa collection. Que dire de plus? Comment faire avancer le récit? Seria nous montre Marie aux prises avec une dame friande de chair fraîche, mais la rencontre apparemment n'a pas de suite jusqu'à ce qu'intervienne un rustre métayer. Marie, qui, malgré son innocence, commence à se rendre compte que le comportement de son mari n'est pas normal, rôde autour de ce métayer, se frotte à lui comme une chatte. Violée par cet homme, Marie a une furieuse réaction de défense, puis se sauve en courant dans la nuit. Sa tête heurte une branche d'arbre, la poupée est brisée, Marie meurt. On l'a compris, ce film original, singulier à plus d'un titre et que Seria a écrit par amour pour sa femme et rôle-titre, Jeanne Goupil, déroutera la critique et sera un bide cuisant qui fera moins de 100 000 entrées. Le petit miracle des galettes de Pont-Aven ne s'est pas reproduit. Déçu par l'accueil de Marie Poupée et afin d'éviter les risques de la singularité, Joël Seria reviendra vers les producteurs des galettes de Pont-Aven avec, sous le bras si je puis dire, en caleçon ou robe de chambre satinée rose, Jean-Pierre Marielle, désormais valeur sûre, pour une sorte de variation de ces galettes. Sauf qu'ici, si le quarantenaire quitte sa terne vie familiale, nulle aspiration libertaire en vue, mais du cul et de l'oseille pour le beauf magnifique plein de lui-même qu'est Roger Pouplard, Jean-Pierre Marielle, le tout serti d'une surenchère de répliques égrillardes avant qu'un retour de manivelle ne laisse un peu s'installer le dépit. Une œuvre iconoclaste dont l'esprit harakiri qui vaut bien plus que ses atours volontairement grossiers, lira-t-on tout de même. Mais pas de miracle, si l'échec est moins douloureux que Marie Poupée, le film ne rassemblera que 400 000 entrées. Joël Seria aura du mal à se remettre de ce nouvel échec, œuvrera dès lors à la télévision pour, entre autres choses, la série Nestor Burma, et ne retrouvera le grand écran qu'à 3 reprises, en 81 pour une adaptation de San Antonio, en 1987 avec 2 crocodiles, incarnés par Jean Carmet et Jean-Pierre Marielle, puis 23 ans plus tard, en 2010, avec Mumu, Seria replongeant dans son enfance brimée dans les années 40 pour un film largement autobiographique avec Jean-François Balmer, Bruno Locher et Sylvie Destu, récréation nostalgique solidement mise en scène, écrira Le Monde.
On est en 47. J'ai 11 ans et je vais encore de me faire envoyer dans un nouveau collège.
Alors, t'es content de toi?
On se demande vraiment ce que t'as dans la tête.
Mon père et ma mère avaient finalement décidé de me mettre à Saint-Eugène.
Innombrable!
Une petite école de village dirigée par Mumu, l'institutrice, la plus vache de tout le département.
Sale chien, fils de jeu! Si vous croyez que ça va durer comme ça, bougre d'âne! Mais vous allez vous mettre à travailler? Oh, rien!
Ah,
Arrêtez, mademoiselle.
Laissez-moi vous, espèce de nouille.
Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi pleures-tu? Parle. Vide ton cœur.
Pourquoi ils sont pas venus me chercher?
Ils ont eu un empêchement, je t'ai dit.
Non, je suis sûre que non. À Saint-Julien et à Saint-Charles, c'était déjà comme ça. Je passais toutes les fins de semaine au collège.
Ils venaient jamais te chercher?
Presque jamais.
Pourquoi ça?
Je sais pas. Tous les copains sont allés sauf moi. Ils disent toujours que j'ai un mauvais fond, que je suis un petit voyou. Ma mère, elle était beaucoup plus gentille quand il était pas là, lui.
Qui ça?
Mon père. Je l'aime pas, lui.
Notre voyage à travers le cinéma étonnant, déconcertant, souvent transgressif de Joël Seria se termine ici. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à le faire savoir, à le partager, à l'étoiler. Belle journée ou bonne nuit.
Radio Caroline. Radio Caroline avec Olivier Monsens.
Découvrez toute l'offre podcast de votre radio préférée sur classique21.be.